Un jour, un grand sage a dit « On est né nu et on est mort vêtu. » Un grand sage ou juste Damien Robitaille, il faudrait que je vérifie. Bienvenue à Dans le champ lexical. Bienvenue à Dans le champ lexical, l'émission qui tourne autour du mot. Chaque semaine, on vous concocte une émission de reportage et d'entrevue en se servant d'un mot comme fil d'Ariane. Et cette semaine, le mot est... nudité!
Du latin nuditas, la nudité est le fait pour quelqu'un d'être nu, non vêtu. Ou, selon le dictionnaire de l'Académie française, première édition 1694, « un stade d'une personne qui est nue, qui laisse voir ce que la pudeur oblige de cacher. » L'humain est le seul animal conscient de sa nudité. Dans son cours de philosophie positive, en 1830, Auguste Comte écrivait que « le vêtement, en soustrayant les organes sexuels à la vue, soustrait l'homme à l'emprise de la nature et de ses instincts. L'homme est un animal vêtu, alors qu'il est par nature un animal nu. » Donc, selon Comte, la fin de la nudité, c'est le début de la civilisation. L'émission d'aujourd'hui sera-t-elle un voyage dans le côté sauvage de l'homme?
Someone's taken the boy from your face, traded your eyes for those that have seen the shade of your innocence consumed in heat. You put your hands in your pockets, buried as deep as they will go. You're gonna find a reason you won't be at the show. And I can see the patterns, I can feel the repetition. You're hurting. Something's perched there on the steeple. You let your eyes follow it away. Kick the rocks down the road, there's no use to pray. 'Cause some days you won't remember, but most days you can't forget how they pulled you from the water, separated from the rest. Who makes these rules? Who's keeping tab? You're looking for answers where there's none to be had. And I can see the patterns, I can feel the repetition. You're hurting. You're hurting.
Déjà porter un jeans et un t-shirt, pour moi c'est beaucoup trop, parce que tu me caches le 7/8 de ce que je dois lire. Il faut que je lise ton corps de travail. J'ai presque envie de retourner la question plutôt que de demander pourquoi les danseurs sont nus, c'est pourquoi les danseurs seraient-ils habillés? Je m'appelle Daniel Léveillé, chorégraphe depuis toujours, professeur au département de danse de l'Université du Québec, également depuis 22 ans.
C'est un peu court comme bio pour quelqu'un d'aussi important que Daniel Léveillé. Alors complétons. Daniel Léveillé a connu son premier succès en 1982 grâce à une chorégraphie sur le Sacre du printemps de Stravinsky. Mais la renommée internationale est arrivée en 2001 avec Amour, acide et noix, qui marque le début de son utilisation de la nudité comme matière et propos. Les deux autres parties de son triptyque « Anatomie de l'imperfection » suivront en 2004 et 2007, soit « La pudeur des icebergs » et « Le crépuscule des océans ». Ces trois chorégraphies sont encore aujourd'hui dansées à travers le monde. Sur la scène de la danse contemporaine québécoise, Daniel Léveillé peut être cité aux côtés des Édouard Locke et Marie Chouinard.
Concevoir des costumes de danse, c'est vraiment l'enfer. On voudrait pouvoir voir le corps, on voudrait... idéalement, les corps ne sont pas inscrits socialement. Mais si je fais simplement habiller mes danseurs comme on s'habille dans la rue, mais déjà, je les inscris très fortement en Occident et blablabla. Je ne peux pas parler au nom de tous les chorégraphes qui ont utilisé la nudité. Il n'y a pas une nudité, il y a plusieurs nudités. Mais pour ma part, c'est la volonté de montrer le corps pour ce qu'il est. Et c'est mon texte, mon travail comme chorégraphe, l'écriture que je crée, concerne exclusivement le corps. Alors pourquoi en cacher certaines parties? Même une bobette, c'est fou, mais la bobette est comme placée au mauvais endroit. Elle cache la tache de la petite culotte. En fait, elle cache la tache des cuisses au bassin. Et là, quand on enlève ce petit morceau de vêtement, on réalise à quel point les jambes, c'est là. On a presque les jambes accrochées en dessous des bras. C'est incroyable. Mais on voit pas ça parce que c'est toujours la ligne de la petite culotte va couper cette... Pour faire une histoire courte, je dirais que ça se passe en deux temps. À la fin des années 60, à New York, il y a eu beaucoup d'expérimentations assez flyées. Et ici au Québec, à la fin des années 70, au début des années 80, plusieurs chorégraphes ont touché à la nudité. C'est-à-dire que même en théâtre, des petits moments dans un spectacle où on présentait... un moment avec la nudité, parce que probablement on jugeait que c'était pertinent par rapport aux propos. Ça va de soi qu'à ce moment-là, c'était une revendication. On n'est pas longtemps après mai 68. C'est une façon d'assumer également le corps. Il y avait peut-être un propos un peu contre la chape de plomb, particulièrement au Québec, la chape de plomb de la religion sur tous les arts. Puis après ça... On n'a pas vraiment entendu parler, jusqu'à ce qu'il y a 10 ou 12 ans, ça ressurgisse, et là, c'est vraiment, ça a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Et c'est pas innocent, je crois. Il y a une chose qui est difficile à faire sur la scène sans tomber dans une sorte de séduction érotique, c'est se dévêtir. Alors, j'ai contourné un peu ce problème-là en allant au bout de l'idée de la nudité, c'est-à-dire que le spectacle commence, les danseurs sont nus jusqu'à la fin, point. Mais c'est certain que si, pendant 20 minutes, tu regardes des danseurs qui sont habillés, puis il y en a une qui enlève son t-shirt, puis qui enlève ses bobettes, bien là, ouh! Non, mais ça fait un clash, on est conscient de ça. Mais si c'est donné au départ, c'est une donnée, voilà, c'est une espèce de convention qui... je disais tantôt qu'il y a des nudités différentes, mais certains chorégraphes vont, par exemple, dans leur propre écriture chorégraphique, être plus, et même dans leur vie, je dirais, je n'aimerais pas de nom, être plus dans la séduction. On va retrouver donc ces éléments-là dans la scène et dans la nudité qu'ils vont utiliser, la manière dont ils vont l'éclairer. D'autres, ça va être plus cru, élevé. Mais dans mon travail, c'est simplement, voilà, un corps, comment c'est fait, comment ça fonctionne.
Vous, personnellement, comment vous y êtes arrivé? Est-ce que vous avez eu une illumination un jour et vous êtes dit, bon, ben, on arrive tout, ou vous y êtes allé par étapes?
C'est une histoire assez rigolo. J'avais demandé deux bourses pour pouvoir faire une création. Ça faisait un certain temps que j'avais pas chorégraphié et j'ai reçu un refus des deux paliers de gouvernement. Alors, j'avais zéro sou pour faire la création. J'ai fait « OK, il n'y aura pas de lumière, il n'y aura pas de costume ». Sauf que là, j'ai été obligé de reculer un peu parce que pas de lumière, c'est un peu embêtant. On n'aurait pas vu grand-chose. Donc, on a fait une conception de lumière à ce moment-là, mais l'idée de travailler nu... Et rester. J'ai donc créé cette première pièce-là qui s'appelle « Amour assez des noix » en 2001 sans penser qu'elle serait dansée nue. Je demandais aux danseurs de travailler, de répéter en fait en sous-vêtements pour pouvoir... Je savais que je parlais surtout du corps et je voulais voir le corps, donc on travaillait en petite culotte. J'ai mis des gants blancs jusqu'au cou. J'ai demandé aux danseurs de faire un enchaînement nu et pour tout le monde, ça a été, je me rappellerai toute ma vie, cette journée-là, la pièce a pris complètement un autre sens. On est passé donc d'un propos qui était plus ou moins inscrit dans la séduction, je dirais, à quelque chose qui est devenu... c'est devenu comme une sorte de fragilité, de vérité donnée, assumée. Ça a été vraiment... vraiment une découverte. Mais ça a été, c'est un peu le hasard qui a fait que j'ai osé me rendre jusque-là. Évidemment, le soir de la première, je savais vraiment pas. J'ai failli d'ailleurs enlever un ou deux mouvements. Je me disais, ah merde, ça c'est quand même trop élevé. Et finalement, c'est les moments que les gens ont peut-être le plus. C'est les moments qui étaient finalement le plus cru, le plus animal, je sais pas comment.
Est-ce que ça occasionne des problèmes techniques au plan strictement technique, que ce soit, je sais pas, des risques de blessés supplémentaires ou...
Au contraire, ça, le vêtement est souvent plutôt dans le chemin quand vient le temps de faire des portées, par exemple. Soulever quelqu'un par la taille ou accrocher une cuisse pour essayer de faire un porté. Alors là, le t-shirt ou les vêtements vont bouger, alors que la peau, il y a quand même une limite, ça bouge un peu, mais on est vite rendu à la limite. Le seul problème qui n'est pas un problème technique, c'est la sueur à la langue. Parfois, ça peut rendre les prises un petit peu plus dangereuses. Mais beaucoup de danseurs m'ont dit que finalement, une fois que c'est assumé totalement, ils ne voulaient plus jamais redanser avec des vêtements parce que c'est plus embêtant qu'autre chose.
Et au niveau de la tournée et des représentations, est-ce qu'il y a des endroits où on ne peut pas aller?
Il y a encore beaucoup d'endroits où la nudité n'est pas permise sur une scène, donc est illégale, sauf exception, partout en Asie. Donc il y a beaucoup de diffuseurs... Coréens, Japonais, Chinois qui sont venus voir mon travail et tout ça. Et ils essaient de me convaincre de, bon, peut-être avec un tout petit vêtement, mais je fais non, parce que ça va changer le sens de la pièce, donc j'attends. Je préfère attendre qu'eux changent leur loi. Évidemment, toute l'Europe occidentale, ça va. L'Amérique du Nord, je dirais, près des mers, ça va. Hein? La côte Est, la côte Ouest, mais il y a des grands bouts au centre où la pensée de droite est assez présente, donc c'est assez difficile. Au Canada, par exemple, je me souviendrai toujours, on était allé danser à Calgary, je crois, et j'avais fait une émission du matin, la grosse émission du matin, il y avait trois morning men qui m'ont tenu pendant, écoute, je pense 40 minutes, puis de toute évidence, ils ne voulaient pas avoir des tenues dans leur ville, et... mais je me suis bien défendu. Écoute, les gars m'ont presque dit à la fin, mais écoute, tu m'as presque envie d'aller voir. Presque. Cela dit, quand je travaille avec des danseurs, je ne travaille pas nu avec eux. On passe pas notre temps tout nu dans les studios. Là. Faut pas... Parfois, il va arriver des petits moments. En studio, pour certaines portées, ils vont préférer enlever le t-shirt, par exemple. Ou même, il y a un porté qui se faisait par les fesses. On attrape le danseur par les fesses. Dans ce temps-là, ils vont enlever leur bobette pour cette section-là, parce que sinon, c'est presque pas faisable avec un costume.
Est-ce que les chorégraphes sont un peu tannés d'avoir à le justifier ou à en parler?
Comme je suis professeur dans une université, je prends pour acquis que ça fait partie de mes fonctions d'expliquer ces choses-là. J'en connais, pour ne pas en nommer, Dave Saint-Pierre, qui est plus capable de se faire poser cette question-là. Il est juste comme plus capable. Arrange-toi avec vos problèmes. C'est comme il ne veut plus lire, il ne veut plus en parler. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé. Mais il faut quand même, c'est que la danse contemporaine n'est quand même pas un art grand public, c'est quand même pas le cinéma ou c'est quand même pas le cirque. Alors, il y aura toujours des gens pour qui n'ont donc pas entendu ce sujet-là et qui on n'a peut-être pas encore totalement vidé la question, effectivement. Je suis beaucoup plus... la question du costume en danse m'interpelle beaucoup plus que la nudité. Je pense qu'au niveau de la nudité, il y a quelque... Pour ceux qui pratiquent la danse contemporaine, les danseurs, les chorégraphes, il y a quelque chose d'assumé. Si j'en ai besoin, je peux utiliser ce costume-là. Mais quelle sera la tendance des costumes? Comment on va habiller les danseurs Oh là là. Parce que c'est très, quand on regarde des chorégraphies souvent anciennes sur vidéo, souvent on va pouvoir dater les pièces de par le costume. Parce que, alors, comment ne pas être à la mode, parce qu'il n'y a rien qui se démode plus vite que la mode? Comment créer un costume pertinent? Balanchine s'en est très bien sorti. Il faisait le ballet néoclassique, par exemple, le petit léotard blanc avec les collants roses pour les filles, les collants noirs pour les garçons. Mais encore là, ça date. On a l'impression d'être dans les années 60 ou dans les années 30 si on utilise ces costumes-là. Imagine que tu es un designer de costumes en danse, on te demande de montrer le plus possible le corps. Grosso modo, il te reste à peu près l'équivalent de créer une petite culotte, là. Puis il faut que tu fasses quelque chose qui n'a pas l'air d'une petite culotte, qui n'a pas l'air du gars qui se lève, qui sort de son lit le matin, là, puis qui a enfilé ses bobettes. C'est vraiment pas évident. La question, je crois, se pose également pour les autres formes d'art, le cinéma, entre autres. Écoute, il y en a de la nudité au cinéma, là. Il y en a. En théâtre aussi, en théâtre d'avant-garde, on utilise aussi beaucoup la nudité. Est-ce que être torse nu pour un homme dans une pièce de théâtre, c'est de la nudité? Oui, pour moi, c'est oui. Peut-être parce qu'on a été plus radical, parce que la forme de la danse contemporaine le permettait parce que c'était pertinent. J'écris à propos du corps, je montre le corps, point. Alors qui peut... Il n'y a presque pas d'argument contre cette proposition-là.
Il l'a vue nue, toute nue, sans cache-truc ni soutien machin. Il l'a vue nue. Mais qui est donc cette nudiste récalcitrante? C'est la chanteuse et actrice française Miss Tinguette qui chante « Il m'a vue nue » en 1926. Et ça l'a fait rougir jusqu'au vaccin.
Il m'a vue nue, oh, toute nue. Je veux oublier ce qui s'est passé, d'autant plus qu'il n'y a rien cassé. Mais je me dis, fatale nuit, je ne peux pas épouser un autre homme que lui.
Dans Tout nu avec toi, la Québécoise Mara Tremblay ne pense à rien d'autre qu'à un contact peau à peau avec celui qu'elle aime. Elle lui demande de la serrer très fort et de la prendre dedans ses bras. Oui, oui, dedans ses bras.
On existe seulement quand je dors. Dans mes rêves, tu me prends encore plus fort. Pardonne-moi si les rares fois que je te vois, je pense rien qu'à être tout nu avec toi. Serre-moi très fort, prends-moi encore, prends-moi et serre-moi très fort. Prends-moi encore, prends-moi.
Le très zen chanteur américain Samuel Beam, mieux connu sous le nom Iron and Wine, sort en 2005 la pièce « Naked as we came ». C'est pas tellement évident de comprendre le sens premier des paroles, mais il semble être question de préarrangements funéraux, en quelque sorte. Une femme dit à son chéri que si jamais elle doit partir avant lui, ben elle veut pas qu'il la dépose dans la terre ou, comme il dit, « Don't you waste me in the ground ». En gros, on semble vouloir privilégier ici une fin un peu plus simple à l'image de comment on vient au monde, c'est-à-dire nu.
She says, wake up, it's no use pretending, I'll keep stealing, breathing her. Birds are leaving over autumn's ending, one of us will die inside these arms. Wide open, naked as we came, one will spread our ashes round the yard.
Sur son album Grand Champion International de course, sorti en 2006, le groupe originaire de Drummondville, Les Trois Accords, chante « Tout nu sur la plage ». Le chanteur y raconte un épisode où il s'est dévêtu sur une plage à Tokyo. Mais c'était pas du monokini, là, non, non. C'était une nudité tout ce qu'il y a de plus intégral qui dévoilait ses tatouages à faire rêvasser les résidents curieux.
Tout nu sur la plage, j'étais tout nu sur la plage, tout nu.
Dans le champ lexical, a choisi aujourd'hui la chanson « Nu au soleil » de Miss « Je suis à l'aise avec mon corps » par excellence, ou en tout cas dans les années 60, là, c'est-à-dire Brigitte Bardot. Le chanteur Arthur H. l'a même reprise récemment dans une version complètement décalée.
On ne peut pas comme ça se promener dans la rue. On ne peut pas, même si l'on voudrait vivre nu. Et pourtant, sans être impudique...
Mais revenons à la version de celle que les Français surnomment affectueusement « Bébé ». C'est une chanson qu'elle enregistre en 1970 et dans laquelle elle avoue que dès que le printemps fait éclater les bourgeons, ben ses vêtements lui pèsent un peu d'une étrange façon. Elle se retrouve alors avec des visions de vagues et de fruits tropicaux et tout ce qu'elle peut s'imaginer, c'est, vous l'aurez deviné, se mettre nue au soleil, complètement nue au soleil, et oui, complètement nue au soleil. Mais bonne chance pour vous enlever les paroles de la tête une fois la chanson terminée. Si vous vous souvenez pas après ça que le titre est « Nu au soleil », ben dites-vous que c'est parce que vous êtes pas normal. Voici donc « Nu au soleil », est-ce qu'on vous l'avait dit, de Brigitte Bardot.
On ne peut pas comme ça se promener dans la rue. On ne peut pas, même si l'on voulait vivre nu. Que c'est grisant. Nu au soleil, complètement. Nu au soleil, complètement. Quand le printemps fait éclater tous les bourgeons, mes vêtements me pèsent d'une étrange façon. Les rochers, nu au soleil, complètement, nu au soleil, complètement. J'ai des visions de vagues et de fruits tropicaux. Quand ces rayons tendrement caressent ma peau. J'ouvre les bras, nu au soleil, complètement, 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 nu.
Pour le Vox Pop de la semaine, voici quelques personnes qui ont bien voulu se mettre à nu pour nous raconter leurs plus belles anecdotes.
Ça m'arrive aussi en fin de party de me ramasser tout nu. Puis là, tout le monde va faire comme « Ah! Qu'est-ce qu'elle fait, elle, tout nu? » Le monde sont comme... Les gens qui me connaissent vont faire « Bah, c'est Lily, c'est normal, elle est tout nu, c'est pas grave, tu sais. »
À la garderie, je changeais la couche d'un petit garçon, puis une petite fille qui avait environ 2 ans et 3 ans, qui était avec moi, puis quand elle a vu le pénis du petit garçon, elle a dit « Moi, j'en ai pas de queue. » La façon qu'elle expliquait ça, c'était la queue d'un animal.
Fait que la grand-maman rentre quand on était dans la position du petit chien.
Puis j'ai des complices, genre, ça... Des fois, je fais des cheap shots dans un bar avec un ami, genre, mais complètement tout nu, genre, juste comme... Ben là, souvent, le personnel du bar va faire, genre, common rabais-toi, tu sais. Genre, on va te mettre dehors ou quoi, puis tu prends ça tranquille, puis tu fais comme, OK. Ouais, il y en a qui capotent, là.
La petite fille de 4 ans.
C'est ça,
elle
trippe
sur mes seins.
Ouais. Pour elle, c'est un souffle.
Oui, c'est le réconfort maternel, c'est les seins de maman. Ouais, c'est une doudou.
Ma mère, elle a toutes les fois que je raconte une anecdote que je me suis mis tout nu ou que j'avais participé à la manifestation nue en vélo, là, la cyclo nue, elle était comme « Non, non, on fait pas ça, on n'est pas tout nu en public. » Je suis comme « Maman, t'avais de la misère à m'habiller quand j'étais petite. »
Maman, à 40 ans, a reçu un gâteau de fête en forme de pénis. C'est notre père qui avait offert un gâteau en forme de pénis. Il était vraiment ressemblant à un pénis, tout rose, crémage et tout. J'ai trouvé ça vraiment particulier.
C'est ça, tu sais, je suis pas exhibitionniste au sens que je veux, je tiens à montrer mes génitaux à tout le monde. C'est que je suis ben pas de linge, je trouve ça comme cool, tu sais.
J'avais à peu près 16 ans, puis on allait faire l'amour avec mon premier chum chez les beaux-parents qui s'en allaient au chalet. Et là, le dimanche matin, le beau-père est rentré. Et là, j'étais, moi, dans le lit des parents, bien entendu, et j'étais comme j'essayais de m'envelopper avec un drap, tu sais, comme on voit dans les films, caché en dessous du lit, puis je pleurais. Et là, le beau-père est rentré, il a fait semblant de rien. Puis après, j'étais tellement gênée de le revoir, tu sais, dans ce temps-là, en tout cas, peu importe. Et puis finalement, il m'a reproché juste un peu à rigolant à Noël parce que tout le monde chiolait contre les jeunes. Puis il a dit, nous autres, on faisait la même chose, mais on était à Saint-Edge, pas sur un poignet. C'était mon premier beau-père.
Mon mari, on lui avait prêté un appartement. Et dans l'appartement, pour aller aux toilettes, il fallait sortir. Et un soir, il se lève tout nu, il sort sur le palier et tout, la porte claque. Et plus possible, tout nu, à poil, il sort, plus possible de rentrer dans l'appartement. Donc il a fallu appeler les pompiers, enfin bon, bref, pour faire ouvrir la porte et tout, voilà. Et c'était un peu...
Je trouve ça drôle que les gens soient aussi mal à l'aise d'être tout nu. Je dis, voyons.
Il y a 2 ans, qu'est-ce qui nous a tombé d'en face? Des maudites vues érotiques! Ceux qui ne savent pas ce que c'est les vues érotiques, c'est les vues d'amour, mais vues de la ceinture en descendant.
Vous êtes toujours à Dans le champ lexical. Et cette semaine, on parle nudité.
Par une de ces maudites vues érotiques-là, c'est pas ça que je voulais voir. Mais tu sais comment se casser, tu vas aux vues, tu regardes pas avant de rentrer, bon. Moi, je rentre là naïvement.
Yvon Deschamps, dans son monologue de la sexualité, en 1975.
Non, mais vous en comptez un peu, vous allez voir. Ils finissent de souper vite-vite, prennent le café vite-vite, jouent au cap vite-vite, sur les cartes qu'il y a à faire. Et la soirée est jeune. Tout à coup, la Française très chatte dit « Est-ce qu'il y aurait-il eu un autre jeu que vous aimeriez jouer avec moi ?» Le gars, il dit « Pour l'instant, je vois pas, là. » Elle dit « Peut-être que pourrions-nous-tu jouer aux pompiers ?» Bon, il dit « C'est un jeu pour les enfants, j'ai pas joué à ça depuis que je suis bébé. » Quand il a vu qu'elle commençait à se déshabiller, il dit « Attendez une minute, là. Peut-être que vous jouez pas comme moi. » En effet, t'as joué pas comme lui pantoute. Imaginez-vous donc pour jouer au pompier, il fallait qu'ils se mettent tenus tous les deux. Lui, il comprenait pas, moi non plus. Mais ben, il a expliqué, fait que j'ai compris. Elle dit, c'est parce que moi, je vais faire la victime dans les flammes et vous faites le pompier qui venait me chercher dans les flammes. Ah! Là, j'ai compris que c'est pour ça qu'ils se déshabillaient, c'est pour pas brûler le linge. Fait que là, elle s'en va dans sa chambre, dans son lit, puis elle se met à crier, au secours, au secours, au secours! Lui, il fallait qu'il parte la cuisine pour faire s'appelle chef des pompiers. Voilà qu'il part de la cuisine, qu'il vienne jusque dans la chambre, tout nu lui-ci. Puis en plus, voilà qu'il s'en vienne en sautant. Va se faire sonner une cloche comme les pompiers. Là, rendu à côté du lit, ça avait l'air que il essayait de l'arroser.
Cyclonudiste ou Manifestation cyclonudiste mondiale ou World Naked Bike Ride ou en France la Vélorussion et au Québec le vélo nu, c'est un événement international durant lequel les participants défilent à vélo, groupés et nus pour la cause écologiste. Le mouvement serait parti d'Espagne en 2001 et appelé à des manifestations cyclonudistes dans des villes du monde entier pendant le mois de juin. Pour savoir un peu plus précisément c'est quoi, voici la traduction libre que fait Caroline Rogers dans la presse du 10 juin 2011 par rapport à la présentation en anglais du World Naked Bike Ride. Nous faisons face au trafic automobile avec nos corps nus, la meilleure façon de défendre notre dignité et de démontrer les dangers uniques auxquels font face les cyclistes et les piétons, aussi bien que les conséquences négatives que nous subissons tous à cause de la dépendance au pétrole et aux autres formes d'énergie non renouvelables. Car oui, le vélo nu, cyclonudiste ou vélo backride naked world tour, c'est surtout basé sur la dépendance au pétrole. Je suis personnellement allée rencontrer quelques-uns des tout nus au Parc Laurier en 2008. Comme vous allez l'entendre, ce n'est pas tous les tout nus qui étaient à la manifestation pour manifester.
N'importe qui a été sur une plage de nudistes pour la première fois se rend compte que la seconde où tout le monde est tout nu, les personnalités changent. On avait parmi notre groupe, où on était à Orford, où il y avait une plage de nudistes, là, qui lui était un garçon extrêmement renfermé, pas moyen de faire parler rien. Quand ça faisait 20 minutes que tout le monde était tout nu, il s'est mis à parler.
Qu'est-ce que vous faites ça, vous, personnellement, aujourd'hui,
ben,
maintenu
moi,
en vélo?
Premièrement, ben, c'est la manifestation. De... Et puis, ben, deuxièmement, je suis très, très exhibitionniste. Alors, s'il vous plaît, regardez.
Parfait. Donc, l'environnement est une cause secondaire.
Pour moi.
Je suis contre qu'il y ait des gens qui se promènent tout nus dans la rue parce qu'ils vont aller devant les résidences familiales, puis tous les parents n'auront pas le temps de... Puis de toute façon, je suis pas contre la nudité, là. Je suis contre qu'on se présente tout nu dans la rue. C'est contre la loi d'être tout nu dans un parc et d'être dans la rue. Mais eux autres, ils ont réussi à faire une manifestation. Ils disent que c'est pour l'écologie. Mais dans le fond, s'il y en a un ou une qui prend son char lundi matin, il n'a pas le droit d'être ici tout nu sur mon plateau royal. Parce que je trouve que... Moi, les enfants, je les ai éduqués, tu sais. J'ai enseigné au secondaire toute ma vie. Puis il y a eu des mondes, il y a n'importe quoi. Mais maintenant, c'est des jeunes de 12 à 15 ans qu'on va rencontrer tout nus dans le parc. Ils vont l'avoir vu, eux autres.
Moi, je vais vous dire, je suis venu... Moi, je viens parce que je suis un naturiste pratiquant. Je suis également un athée pratiquant. Je veux une société laïque dans lequel toute ingérence religieuse ne devrait pas faire partie de nos lois. Et toutes les lois que nous avons d'atteinte à la pudeur sont elles-mêmes une atteinte à la nature. Mm-hmm. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là d'avoir honte de ce que nous sommes? Puis moi, quand je dis ça, vous savez, je vous dis quelque chose, hein? Je suis né comme ça. Tout nu. Je suis né comme ça.
Que ce soit clair, la nudité est tolérée dans le cadre de la manifestation seulement. D'accord? Alors la nudité dans le parc après la manifestation ne sera pas tolérée. Vous serez en état d'inégalité.
Mehdi, de la part de Sonny Duval, qui vous offre maintenant une chanson sur le thème de la nudité. J'aimerais la dédier à tous les nus. C'était un dimanche soir, il faisait à peine noir. Nous venions d'entamer le spaghetti. Les ustensiles à la main près de la salle de bain. J'ai refusé ton parmesan. Mais quand je t'ai vu sortir les olives sans noyau, révélant tes formes avantageuses, je n'eus d'autre choix que de m'approcher de toi. Et sous ton géant bégonia, nous nous sommes mis nus. Nous nous sommes mis nus. Si nus nous nous étions mis nus.
Pour le thème nudité, j'ai choisi « Mémoire de mes putains tristes », un roman du Colombien Gabriel Garcia Marquez qui pourrait en offusquer quelques-uns. Le narrateur du roman, dont on ne connaîtra pas le nom de tout le livre, est un vieux journaliste qui se dit lui-même laid, timide, et puis aussi qui a beau vivre dans une grande maison mais qui est pauvre. Vieux garçon, il n'a jamais aimé personne et il a payé pour avoir du sexe toute sa vie, ce qui explique le titre du roman. En fait, il a failli se marier une seule fois quand il était jeune, après avoir aperçu, au détour, en ouvrant une porte, une jolie jeune femme nue. Ma mère, sur son lit de mort, m'avait supplié de me marier jeune avec une femme blanche et d'avoir au moins 3 enfants, dont une petite fille qui porterait son nom. c'est-à-dire celui de sa mère et de sa grand-mère. Je voulais exaucer son vœu, mais j'avais une idée si large de la jeunesse que je n'ai jamais eu l'impression qu'il pouvait être trop tard. Jusqu'au jour où, un midi caniculaire, alors que j'étais chez les Palomars de Castro, à Prado Mar, je me suis trompée de porte et j'ai surpris Ximena Ortiz, la plus jeune de leurs filles, nue, en train de faire la sieste dans la chambre d'à côté. Elle était allongée, dos tourné à la porte, et le mouvement de sa tête pour me regarder par-dessus son épaule a été si rapide que je n'ai pas eu le temps de m'esquiver. « Excusez-moi, » ai-je balbutié, sur le point de rendre l'âme. Elle a souri, s'est retournée avec une volupté de gazelle et s'est montrée à moi dans sa complète nudité. Toute la pièce était saturée de son intimité. À vrai dire, elle n'était pas tout à fait nue, car elle avait à l'oreille une fleur vénéneuse aux pétales orangés, comme l'Olympia de Manet, et portait, comme elle, une gourmette en or au poignet droit et une rivière de perles menues. Je me suis dit que plus jamais il ne me serait donné de contempler une image si troublante, et aujourd'hui, je puis attester que j'avais vu juste. Son désir pour elle était tellement grand qu'il s'est senti obligé de la demander en mariage, mais il s'est même pas présenté à l'hôtel par la suite. Et donc, il a vécu une vie de solitude comme le dit le titre, il n'arrêtait pas d'aller voir les putains. Et puis, des années plus tard, le jour de ses 90 ans, il lui vient l'envie de se payer une nuit avec une jeune vierge. La patronne du bordel lui en trouve une. Elle a 14 ans. Alors oui, je sais, on est loin d'être dans le politically correct. Cette jeune beauté-là va le remuer totalement et lui faire se rendre compte qu'il n'avait vraiment jamais connu l'amour avant ce jour-là. Quand 7 heures ont sonné à la cathédrale, une étoile solitaire et limpide brillait dans le ciel couleur de rose. Un bateau a poussé un adieu déchirant, et au fond de ma gorge, j'ai senti se serrer le nœud gordien de toutes les amours qui auraient pu être et n'avaient pas été. La petite, qui elle non plus n'aura pas vraiment de nom, que lui nomme Delgadina, est très pauvre et elle travaille durement la journée pour faire vivre sa famille, ses frères et sœurs. Et donc, le soir où elle doit coucher avec lui, elle s'endort tout bonnement. Et lui, il arrive dans la chambre très nerveux. Et au lieu de la réveiller, le narrateur va la détailler c'est ça, et se rendre compte de la splendeur de son corps. Ici, la nudité de la jeune fille révèle évidemment la jeunesse, parce que face à elle, le vieil homme prend conscience du temps qui a passé, qui a fait des ravages sur son corps, et se rend compte de sa mort imminente également. À partir de là, les impératifs de son désir qui a mené toute sa vie et la pudeur qu'il avait vont s'affadir, puis parce qu'ils sont confrontés à l'amour. Alors, je vous laisse avec l'extrait de cette rencontre pas banale entre ces deux personnes-là, et c'est un peu la rencontre entre la vie qui éclot et celle qui s'éteint. Il n'y avait pas d'échappatoire. Je suis entrée dans la chambre, le cœur en tumulte, et j'ai vu la petite endormie, nue et désarmée sur l'énorme lit, telle que sa mère l'avait mise au monde. Elle reposait sur le côté, face à la porte, sous la lumière intense du plafonnier qui n'épargnait aucun détail. Je me suis assis au bord du lit pour la contempler, les 5 sens comme ensorcelés. Elle était brune et tiède. On l'avait soumise à une cure d'hygiène et de beauté qui n'avait rien négligé, pas même la toison naissante du pubis. On lui avait frisé les cheveux, et les ongles de ses pieds et de ses mains étaient recouverts d'un vernis incolore, mais sa peau couleur de mélasse avait un aspect rêche et abîmé. Les seins, à peine éclos, ressemblaient encore à ceux d'un petit garçon, mais on les sentait gorgés d'une énergie secrète sur le point d'éclater. Ses grands pieds, comme faits pour se déplacer à pas feutrés, avec des orteils longs et sensibles qui ressemblaient aux doigts d'une main, étaient ce qu'elle avait de plus beau. Elle était trempée d'une sueur phosphorescente malgré le ventilateur, et la chaleur devenait insupportable à mesure que la nuit avançait. Sous l'épaisse couche de poudre de riz et les 2 emplâtres de rouge sur les joues, avec les faux cils, les sourcils, et les paupières comme passées au noir de fumée, et les lèvres agrandies par un brillant couleur chocolat. Il était impossible d'imaginer son visage, tant il semblait peinturluré à grands coups de pinceau. Mais ni le maquillage ni l'épilage ne parvenaient à dissimuler sa personnalité. Le nez altier, les sourcils rapprochés, les lèvres ardentes. Un tendre taureau de combat, ai-je pensé. Je me suis déshabillée et j'ai accroché du mieux possible mes habits à la patère, afin de ne pas froisser la soie de ma chemise et le lin de mon costume. J'ai uriné dans la cuvette des Waters, assis, comme me l'avait appris Florina de Dios quand j'étais petit, pour ne pas mouiller les bords, et en toute modestie d'un jet immédiat et continu de poulain sauvage. Avant de regagner la chambre, je me suis penchée sur le miroir au-dessus du lavabo. Le cheval qui me regardait de l'autre côté n'était pas mort, mais lugubre, avec un menton à étages, des paupières bouffies, et sur le caillou, quelques poils qui avaient été autrefois une crinière de musicien. « Merde, lui ai-je dit. Qu'est-ce que je vais faire si tu ne m'aimes pas ?» Ne voulant pas la réveiller, je me suis assis tout nu sur le lit, les yeux à présent habitués à l'imposture de la lumière rouge, et je l'ai examiné pouce par pouce. Du bout de l'index, j'ai parcouru sa nuque trempée de sueur. Tout en elle a frissonné comme un accord de harpe. Elle s'est tournée vers moi en grognant et m'a enveloppé de son souffle acide. Je lui ai pincé le nez entre le pouce et l'index. Elle a regimbé, a secoué la tête et m'a tourné le dos sans se réveiller. Obéissant à une tentation imprévue, du genou, j'ai essayé de lui écarter les jambes. Elle a résisté aux deux premières tentatives en serrant les cuisses. Je lui ai chanté à l'oreille « Un ange veille sur le lit où Delgadina s'est endormie ». Elle s'est détendue. Un courant chaud est monté dans mes veines et mon lent animal à la retraite s'est éveillé de son long sommeil. La potion de Valériane devait être aussi efficace sur elle que sur moi car il ne nous est rien arrivé, ni à elle, ni à moi. Mais cela m'était égal. À quoi bon la réveiller, me suis-je demandé, humilié, triste et plus froid qu'une limace. Je me suis levée à 5 heures, préoccupée par ma chronique dominicale qui devait être sur la table de la rédaction avant midi. J'ai fait mes besoins ponctuels en ressentant de nouveau les ardeurs de la pleine lune, et au moment de tirer la chasse, j'ai senti que l'amertume du passé s'en allait à l'égout. Quand je suis entrée dans la chambre, dispo et habillée, la petite dormait sur le dos, dans la lumière conciliatrice de l'aube, en travers du lit, les bras en croix et en pleine possession de sa virginité. « Que Dieu te la préserve », ai-je murmuré. J'ai laissé sur l'oreiller tout l'argent qui me restait, le sien et le mien, et je lui ai dit adieu pour toujours, en posant un baiser sur son front. La maison, comme tout bordel à l'aube, était ce qui ressemblait le plus au paradis. Je suis sortie par le portail du jardin pour ne croiser personne. Sous le soleil torride de la rue, j'ai commencé à sentir le poids de mes 90 ans, et à compter minute par minute, les minutes des nuits qui me restaient avant de mourir.
Il est impossible de parler de nudité sans parler de camp nudiste. D'ailleurs, doit-on dire nudiste ou naturiste? Pour répondre à la question, j'ai été fouillé dans les archives et j'ai trouvé un numéro du magazine L'Actualité daté de juillet 1978. Pour leur spécial vacances, le magazine a publié un article sur le sujet des camps nudistes, un article intitulé « Les ghettos du soleil ». Le docteur Jean-Marcel Boucher, fondateur du premier centre naturiste du Québec, et explique que la nudité n'est pas un but, mais un point de départ qui permet de mieux se situer par rapport à ses semblables et à son milieu. Une fois que l'individu est suffisamment bien dans sa peau pour respecter autrui et son environnement, il peut choisir une façon de vivre qui le rend apte à repenser ses loisirs et à devenir un élément créateur au sein d'une société dynamique. ça règle le cas des naturistes qui vont dans des camps naturistes. Mais pour les nudistes qui vont dans des camps nudistes, comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est? La description que fait la journaliste de l'actualité dans ce numéro de 1978 est étonnante et mérite d'être lue. Dans ces camps, on favorise souvent un certain type d'activité. Publications érotiques, échanges de partenaires, jeux de société ambigus, concours de la plus belle miss, la nudité monte sur scène, arbore l'écharpe honorifique, le diamant, chausse des talons hauts. Le sexe se coiffe et se maquille. On lui distribue des trophées. En 1972, Jocelyne Lépine, épouse de l'ex-président du club, le Paradis Terrestre, remporte la palme internationale. À l'été 1976, année des Olympiques, le Québec a l'honneur d'être choisi comme pays hôte du concours de la Reine mondiale du nudisme. Ah, les années 70.
Ja, I keep on scribbling. In the spare room I'm living in, body's here but I'm never in. Why do I keep wasting time? I keep on writing, writing, with them folk ain't biting, biting. Maybe the bait ain't juicy enough. Sun switching, chucking spice and nuts and flavor. Out the heat, silly rhymes and street type beats, yeah. But that ain't me, and nah, it just ain't me. So light me a light, these are the words of this be true. Sending them out with love and faithfully, hopefully they'll do something to me, cause life is too short to store our grudges. Yeah. Life is too long to make no plans. I'm cutting up time that I ain't using. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4. I need a good use for all these lines and 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 lines. I keep on scribbling in the spare room I'm living in. Body's here but I'm never in. Why do I keep wasting time? I keep on writing, writing, but then folk ain't biting, biting. Maybe the bait ain't juicy enough. Sun switching, chucking spice and add some flavor. Up the heat, city rhymes and feet tight beats, yeah. But that ain't me, nah, it just ain't me. So light me a light. These are the words of this me truly. Sending them out with love and faithfully. Hopefully, they'll do something to me, yeah. Life is too short to store our grudges. Life is too long to make no plans. I'm counting on time that I ain't using. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4. I need a good piece for all these lines and 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 lines.
C'est tout pour nous cette semaine à Dans le champ lexical. La semaine prochaine, on quitte le plancher des vaches et on s'évade dans le mot nuage, où nous essaierons d'en pelleter un peu, mais pas trop. D'ici là, je vous laisse méditer ces quelques mots de Daniel Darc. La nudité, c'est l'éloquence de la chair.
L'émission Dans le champ lexical est une réalisation de Mathieu Charlebois et Joannie Larue. Nous ont aidé à habiller l'émission cette semaine, morceau par morceau, Pierre Duchesneau, aux chansons de tout nu, Annie Rossano, au vox pop Malaise de tout nu, Lisanne Rault-Leblanc, à la lecture d'extraits de romans de tout nu, Dominique Charron, à la recherche de tout nu, et Sonny Duval, complètement nu, en enregistrant la chanson originale. L'émission Dans le champ lexical peut être téléchargée sur notre site danslechamplexical.com et vous pouvez vous abonner à notre balado-diffusion sur iTunes.